affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes à l'écoute de Canal Academy. Il y a 500 ans exactement, je ne vous apprends rien, se déroulait la bataille de Marignan qui rendit célèbre François Ier auprès des écoliers et des Français en général. Et c'est certainement la raison qui a conduit le ministère de la Culture de faire de 2015 l'année François Ier avec un grand nombre de manifestations, d'expositions et d'événements consacrés à ce roi qui fit entrer la France dans la Renaissance. Au début de l'année, il y eut ainsi une exposition à la Bibliothèque nationale de France sur l'image du roi, une autre en cours à Blois sur la Bibliothèque du roi, et bientôt une troisième grande exposition aux Invalides consacrée, bien évidemment, au roi guerrier. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui couvre un spectre beaucoup plus large, puisqu'elle aborde François Ier sous ses multiples aspects, à la fois public et privé. Sont ainsi abordés dans cette exposition le roi guerrier, bien sûr, incontournable, mais aussi le roi mécène, le roi bibliophile et collectionneur, le roi aussi des humanistes et désireux d'embrasser les idées et les découvertes ô combien nombreuses de son temps. Si bien qu'elle est nommée d'ailleurs le siècle de François Ier. Et comme elle se tient au domaine de Chantilly, qui est un des joyaux culturels de l'Institut de France, nous avons la joie et l'honneur de recevoir dans notre studio Olivier Bosque. Olivier Bosque, qui est le commissaire général de cette exposition et conservateur de la bibliothèque et des archives du château de Chantilly.
Bonjour.
Bonjour Olivier. Tout d'abord, permettez-moi de m'étonner que le domaine de Chantilly se soit associé à ces célébrations de François Ier. Quand on pense à François Ier, on pense plus spontanément à Blois, justement, Chenonceau, Chambord, mais pas au domaine de Chantilly.
Effectivement, le grand personnage de la Renaissance à Chantilly, ce n'est pas tout à fait François Ier, c'est plus sûrement le connétable de Montmorency. Mais ce qui qualifie vraiment le domaine de Chantilly, et qui lui permet finalement de contribuer d'une façon éclatante à la célébration 2015. Alors, double célébration, c'est à la fois la célébration de l'avènement de François Ier sur le trône, en janvier 1515, et aussi la célébration de son éclatante victoire, les 13 et 14 septembre 1515, à Marignan. C'est une victoire unique d'ailleurs, parce qu'après, il a perdu beaucoup, beaucoup de batailles. Et donc, ce qui qualifie Chantilly, qui lui permet de contribuer aussi efficacement à la célébration nationale, ce sont ses collections. Parce qu'il y a, par la grâce du duc d'Aumale, le dernier propriétaire de Chantilly, qui en 1884 a donné le domaine de Chantilly, ses terres, ses fermages et ses collections à l'Institut de France. Le duc d'Aumale avait dans ses collections, et ce sont des collections qui sont toujours présentes à Chantilly, un certain nombre de témoignages véritablement incontournables pour l'histoire de François Ier, l'histoire de la Renaissance, l'histoire de son siècle. Ce sont des témoignages, je dirais, qui sont présents dans tous les domaines de l'art et de la connaissance. Hein. Ce sont des tableaux, des dessins, des livres, parfois même des objets. Et il était véritablement important de pouvoir intégrer ces collections, qui sont véritablement incontournables, dans la célébration nationale 2015. Et c'est ce que nous avons fait grâce à cette exposition. Alors, peut-être un petit mot je dirais, le contexte. Hein. Le domaine de Chantilly est une destination à la fois culturelle et touristique qui accueille à peu près 450 000 visiteurs par an. Et notre ambition, c'est d'avoir, je dirais, un flux continu de visiteurs. Et une grande exposition d'automne, c'est véritablement pour nous une manière, je dirais, d'être présent dans le cycle des grandes expositions, à la fois en région, mais aussi à Paris. Et c'est toute l'ambition du siècle de François Ier.
Alors, si vous voulez bien, je vous propose que vous nous promeniez de façon un petit peu virtuelle à travers les allées de cette exposition, qui est assez scandée. Je crois qu'on commence par quels aspects ?
Voilà. Alors, un petit mot aussi encore là de contexte. L'exposition se tient au Jeu de Paume, qui est un ancien jeu de paume, comme son nom l'indique, qui est donc dans le périmètre du parc du château. Et c'est un lieu qui a été intégralement restauré en 2011 et 2012 et qui offre. C'est un lieu vraiment.
Un écrin parfait pour.
Voilà, vraiment tout à fait aux normes, à la fois pour pouvoir présenter sous un autre jour certaines œuvres qui sont déjà présentes dans le château et qu'on repropose au sein du jeu de paume, mais aussi pour accueillir des prêts importants. Et on a des prêts du Louvre, de Fontainebleau, ça je vais y revenir. Donc je dirais l'ambition de cette exposition est assez, voilà, c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est une exposition assez à la fois générale et précise sur François Ier. Je veux pas faire du marketing ou survendre l'exposition, mais si on doit avoir une seule exposition François Ier cette année, c'est celle-là qu'il faut aller voir parce que c'est là où on a à peu près tous les aspects à peu près synthétisés et surtout des œuvres tout à fait remarquables, incontournables.
Justement, prenez-nous par la main et emmenez-nous dans le premier moment
finalement de l'exposition et la première pièce s'appelle, enfin on a appelé cette section Présence du roi, et on repropose différents portraits de François Ier à différents âges de sa vie. Ça permet un petit peu de se remettre, je dirais, presque de niveau, mais en tout cas de se souvenir de qui était François Ier, voilà, un peu de chair et d'os. Et donc dans ce domaine de Chantilly, il y a un portrait très célèbre de François Ier au moment où il accède au trône. Nous avons les dessins de Clouet, qui sont des œuvres aussi, je dirais, qui représentent le roi à différents moments de sa vie. Et on a un prêt tout à fait remarquable, qui est le prêt du Clouet du Louvre. Ce portrait, je dirais, presque canonique de François Ier, qui est...
Celui qu'on découvrait dans tous nos livres d'histoire, lorsque nous étions enfants. Je le reconnais.
Voilà, et c'est le fameux portrait qui figurait sur le timbre de 15 francs, qui nous a tous fait rêver, voilà, ce superbe beau timbre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on confronte cette huile, ce panneau sur bois, à son dessin préparatoire que nous conservons à Chantilly. Et ça, c'est vraiment un des atouts de l'exposition, de pouvoir finalement réunir... Alors, vous le savez, les œuvres de Chantilly ne sont visibles qu'à Chantilly. L'occasion qui nous était offerte par cette exposition, c'est de pouvoir finalement confronter des œuvres de Chantilly à des œuvres qu'on nous prête. Alors là, ça fonctionne très très bien avec le tableau de Clouet, où on voit ce roi à la fois en majesté, la main sur la garde de l'épée, avec son habit noir, blanc et jaune. Et alors c'est à la fois un portrait, je dirais, canonique, officiel, mais quand on le découvre dans la salle d'exposition, on éprouve une très grande proximité avec le roi, puisque c'est un tableau qui est quasiment grandeur nature. Le roi presque plante son regard dans le vôtre. C'est toute la force du travail de l'artiste, hein, d'avoir cette dimension à la fois presque réaliste et cette vision officielle aussi du roi.
Oui, alors justement, que nous apprennent ces tableaux sur la figure de François Ier?
Alors, il y a ce que les tableaux nous apprennent, effectivement, de son physique. C'est un personnage, c'est un personnage très grand, il fait presque 2 mètres. On a pu voir dans l'exposition de la Bibliothèque nationale de France son armure, donc on voit que c'était quand même un grand gaillard.
Surtout pour l'époque, j'imagine.
Voilà, oui, absolument. Et c'était un personnage extrêmement fougueux, plein d'élan, plein d'allant. Presque sanguin, on rapporte des témoignages où un jour, voyant ces hommes jouer à... Alors, c'était pas le rugby à l'époque, mais la sioule, ou une espèce de jeu un peu de contact et de balle, il s'est jeté avec eux au milieu de la mêlée, en échangeant des coups. Voilà. C'est un personnage extrêmement, comment dirais-je, très
Donc là,
vivant.
C'est juste avant la Renaissance.
Voilà, mais il a gardé un petit peu ce trait. D'ailleurs, on montre toujours dans cette section sur la présence du roi un vitrail armorié qui nous est prêté par le château des Coins, où, je le précise, va se dérouler bientôt une exposition sur Louise de Savoie, la mère de François Ier. Justement, un panneau où on voit les armes de François Ier avec la fameuse salamandre. C'est un emblème qui lui a été donné par sa mère, Louise de Savoie. Et donc cet animal qui avait la réputation à l'époque de traverser le feu sans se brûler, c'est justement une incitation à François, au futur roi, faite à François Ier pour éteindre en lui le mauvais feu. Alors ce mauvais feu, c'est cet élan, ce côté un petit peu désordonné, fougueux, et d'encourager le bon feu, le feu de la réflexion, de la tempérance, du calme. Et c'est intéressant parce que ça nous montre, un aspect qu'il faut quand même rappeler, c'est que François Ier n'était pas tout à fait programmé pour être roi, il n'était pas tout à fait dans la bonne idée dynastique. C'est toute l'œuvre de sa mère, Louise de Savoie, et de sa sœur, Marguerite d'Angoulême, d'avoir, propulsé leur frère sur le trône de France, un jeune François Ier qui a été préparé très activement par sa mère, qui l'a entouré de précepteurs, de savants, qui l'a formé aux sciences, aux lettres, alors qu'il avait sans doute une nature un peu plus guerrière, une nature un peu plus...
Dans ces deux aspects que vous décrivez de sa personnalité et qui transparaissent effectivement des portraits, selon aussi probablement l'image que l'on veut donner de soi, sur certains portraits, il a l'air extrêmement posé, sage, on semble insister justement sur son côté bienveillant. Et sur d'autres, c'est très clairement un roi guerrier portant une masse d'armes, surmonté d'un home avec un bonnet mais hérissé de pointes. Mais toujours est-il, j'en viens à l'un des intitulés du parcours qui est proposé, du roi guerrier au roi mécène. Est-ce que ces instincts initiaux n'a-t-il pas finalement réussi à les dompter? Et n'est-ce pas précisément comme une sorte de résumé de sa vie, de son parcours et de son évolution?
Alors, il faut se méfier un petit peu à la fois des images, des travaux récents d'historiens, notamment je pense à ceux de Didier Le Fur, hein, qui vient de publier une bonne et grosse biographie de François Ier, montre que finalement l'image qu'on a aujourd'hui de ce monarque, c'est une image qui est en permanence fabriquée, retravaillée, qui circule. Et l'image que vous évoquez effectivement de ce François Ier en guerrier, en soldat, c'est une image pour le coup qui est, vraiment mise au point après un événement un peu dramatique. C'est qu'on se souvient tous de cette victoire de Marignan qu'on célèbre, 1515, mais 10 ans après, il y a une autre bataille qui n'est pas vraiment une victoire, qui est une défaite à Pavie. Et justement, la défaite de Pavie, c'est assez paradoxal, c'est le moment effectivement où dans l'imagier, dans la diffusion, même dans les récits, François Ier apparaît comme un guerrier et on magnifie à 10 ans de distance la victoire de Marignan qui à l'époque était passée un petit peu inaperçue. Donc il y a une espèce de jeu un petit peu.
C'est-à-dire qu'on rend célèbre Marignan après la défaite de Pavie.
Voilà. Donc il y a véritablement un travail, de fabrication ou de. On revisite, dirait-on aujourd'hui, l'histoire brève du règne et ce qui se passe, du vivant du roi. Après, se retrouve au fil de l'histoire où le roi est tour à tour oublié. Bon, c'est pas un personnage dont on se souvient beaucoup au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Par contre, il est redécouvert au XIXe. C'est d'ailleurs pour ça que le duc d'Aumale a beaucoup de témoignages de François Ier dans ses collections parce que c'est le moment précis, effectivement, où on redécouvre ce roi et où on recommence à écrire son histoire, où on redécouvre les sources justement qui étaient contemporaines et presque. On est parfois un petit peu tributaire. Les historiens du temps sont parfois un petit peu tributaires des refabrications et du mythe du roi guerrier. Et bon, il y a cet épisode qu'on a tous appris. Ou peut-être un peu moins dans ma génération, parce que moi je suis d'après la réforme Edgar Faure, effectivement le fameux épisode où Bayard adoube sur le champ de bataille François Ier. On sait pertinemment que c'est une histoire qui est fabriquée, c'était pour permettre...
Qui est fabriquée, pourquoi?
Alors elle a un rôle, ça c'est ce que montre Didier Le Fur, c'est pas une chose qu'on a inventée, mais ce qui est amusant c'est qu'on a dans l'exposition des documents qui l'attestent, notamment une histoire du chevalier Bayard qui date de 1525, c'est-à-dire au moment de la défaite, et c'était un outil très pratique pour faire la preuve. Un roi de France ne pouvait pas être battu et fait prisonnier, comme ça a été le cas de François Ier à Pavie, mais un chevalier, oui.
Donc, un chevalier ne peut pas fuir, c'est ça?
Voilà. Et donc,
il se bat jusqu'au bout, et donc il aurait été fait prisonnier par bravoure et par respect du code de la chevalerie.
Exactement. Alors que François Ier n'a pas été fait chevalier sur le champ de bataille par Bayard, il a été fait chevalier au moment de son sac, comme tous ses prédécesseurs et ses successeurs. Alors, ce n'est pas le thème principal de l'exposition, mais on ne pouvait pas faire une exposition sur François Ier en évacuant Marignan. On a dans les collections de Chantilly la seule représentation contemporaine de cet événement. C'est une enluminure qui est due au maître de la ratière. Hein. C'est un document. Même TF1 est venu le filmer l'autre jour quand ils ont fait un sujet sur la bataille.
Contemporain de la bataille.
Voilà. Alors la datation peut être un petit peu postérieure, mais en tout cas, elle est d'époque. Ça, c'est très important. Donc on a cette image. Donc on est capable aussi d'illustrer la grande politique que tente François Ier qui malheureusement ne débouche pas il était parvenu à devenir roi de France, mais il cherchait aussi à dominer l'Europe. Il n'y parvient pas.
Oui, il faut peut-être resituer le contexte, c'est-à-dire que le grand adversaire de l'époque, c'est Charles Quint.
C'est Charles
Un
Quint.
Gros morceau, Charles
voilà,
Quint.
Oui, effectivement, c'est l'Empire, l'héritier du Saint-Empire romain germanique, et François Ier tente de dominer l'Europe. D'ailleurs, la bataille de Marignan, cette incursion en Italie, cette attaque éclair à travers les Alpes, c'est un des premiers jalons de cette tentative, je dirais, de dominer l'Europe, et qui échoue. Et François Ier, parfois, se livre. Alors aujourd'hui, ce sont des épisodes qui sont là aussi revisité. Nous présentons dans l'exposition une des trois lettres de Soliman le Magnifique à François Ier. C'est un document extrêmement spectaculaire qui fait 4 mètres de haut. C'est une lettre donc que Soliman écrit à François Ier et qui matérialise alors ce qu'aujourd'hui on présente comme une ouverture vers l'Orient, etc., qui à l'époque était qualifié. Voilà, qui est un accord géopolitique et que tous les souverains d'Europe ont qualifié d'alliance impie. Parce que voilà, contracter avec le Turc, c'était vraiment assez mal vu dans les cours d'Europe. Et ça fait partie un petit peu des expédients que François Ier essaie de mettre en place pour pallier son isolement continental et ses défaites.
Il était dans la réelle politique.
Voilà, alors ça a aussi des aspects positifs, parce que c'est ce qu'on voit très bien dans l'exposition, c'est qu'il y a beaucoup de ramifications, de correspondances entre... la vie historique, politique et ce que ensuite François Ier met en place dans le domaine culturel ou universitaire. C'est pas par hasard que dans le Collège de France, ce qu'on appelle à l'époque le Collège des électeurs royaux, on crée les premières chaires s'intéressant à l'Orient, aux langues orientales. Donc on traite ce roi-là, le roi aussi avec ce jeu un peu dangereux. C'est le début de la diffusion de la réforme protestante en France, et François Ier, alors ça c'est très fort au XIXe siècle, est accusé un petit peu d'être le premier monarque ayant persécuté les protestants. Donc là aussi on a des témoignages intéressants, ces aspects-là. Et puis on traite aussi un aspect incontournable qui est François Ier et les femmes.
Oui, puisqu'on avant d'y venir, oui. Je voudrais qu'on revienne sur cette attirance pour l'Italie, car il va guerroyer en Italie. Mais il y a quand même un second aspect, c'est que l'Italie, à ce moment-là, est aussi un foyer culturel bouillonnant, où il se passe des choses formidables qui vont avoir une influence sur l'Europe entière. Et François Ier ne va pas seulement guerroyer, il le perçoit. Comment appréhende-t-il ce qui se passe là-bas ?
Alors, ça a été très bien dit par un des commissaires de l'exposition. On est un petit groupe de commissaires, je citerai le nom des autres commissaires au fil de l'entretien, qui s'appelle Marcello Simonetti, qui est un historien, et qui a très bien dit François Ier et l'Italie, c'est l'attraction fatale. Voilà. Elle est fatale parce qu'elle apporte à François Ier effectivement sa première victoire, mais aussi ensuite toutes ses défaites et tous ses désagréments. Mais effectivement, François Ier en tire peut-être un parti utile en cela qu'il découvre ces petites principautés italiennes où on est capable d'associer le prince, sait s'entourer d'artistes, de savants. Et François Ier, il réplique à l'échelle d'un royaume, qui est celui de la France, ce que font les petits princes ou le duc de Milan. Et le faire à l'échelle avec qu'emploie et qu'utilise François Ier, ça, c'est vraiment inédit. Ça, c'est véritablement un apport important, unique. Et même François Ier sera très, très adroit pour attirer à lui. Alors bon, il y a une histoire parfois reconstruite, là aussi au XIXe siècle, on illustre toujours François Ier au chevet de Léonard de Vinci mourant. Bon, y a, là aussi, il faut se méfier un petit peu des reconstructions, des images qui sont diffusées au XIXe siècle, mais il est bien certain que François Ier envoie des missions à Rome, repérer quels sont les artistes, les sculptures. C'est le rôle de Primatis hein, qui se rend à Rome dans les années 1540 pour identifier les pièces les plus importantes que François Ier va faire copier et ramener à la cour et installer par exemple à Fontainebleau. On a d'ailleurs une de ces pièces qui est présentée dans l'exposition. Il est capable aussi, quand certains artistes ou certains savants, alors je pense par exemple à l'imprimeur Alamanni, qui est un grand artisans du livre à l'époque, sont en rupture de ban ou sur pourchassé, il les récupère et il les fait protéger à la cour de France. Voilà, donc il a vraiment un rôle, je dirais, à la fois, finalement, l'Italie lui apporte la défaite, mais lui apporte aussi de quoi, entre guillemets, sauver son règne par la culture et par les arts.
Justement, quand on parle de politique culturelle et du rôle de l'État dans la culture, souvent, ceux qui sont favorables à cette intervention de l'État citent François Ier comme l'initiateur d'une politique culturelle étatique. Est-ce que cela transparaît ? Est-ce que ça vous semble exagéré ? Est-ce qu'on sollicite les faits ? Ou est-ce que... Que dire ?
Rattacher aussi... Enfin, on a effectivement le réflexe de rattacher ce moment François Ier à d'autres épisodes et alors bon, pour synthétiser les choses, comme le fait d'ailleurs Marc Fumaroli dans sa préface, il écrit noir sur blanc, il le dit, le siècle de François Ier, c'est la répétition du siècle de Louis XIV. Louis XIV qui est véritablement un souverain qui donne une échelle, un écho à la culture, au savoir. Alors François Ier fait exactement la même chose, mais il le fait à une échelle un petit peu moindre. Il le fait aussi d'une façon véritablement pionnière. Et puis, certes, il est le premier, par exemple, à constituer des collections royales, mais il va se produire un épisode un peu fâcheux qui est ce qu'on appelle la carence royale. C'est-à-dire que les successeurs de François Ier, c'est encore un petit peu le cas d'Henri II qui continue un petit peu dans ses brisées, mais après, ça se perd. Il y a vraiment une perte culturelle, c'est-à-dire que les collections ne sont pas entretenues, les ensembles sont perdus, et ce qui fait que faire une exposition avec les trésors artistiques produits au temps de François Ier, c'est très difficile. Il reste très très peu de choses. Donc,
suffisamment pour faire une belle exposition.
Oui, oui, mais par exemple, quand nous on a la chance de pouvoir montrer par exemple une pièce d'orfèvrerie qui nous est prêtée par qui est le sceau et le goupillon, qui fait partie du trésor de François Ier, les pièces d'orfèvrerie aujourd'hui elles se comptent sur les doigts d'une main. On présente, c'est vraiment la pièce majeure de l'exposition, une tapisserie qui est d'époque, hein, qui est de 1535, qui est la bataille de Zama. On aurait beaucoup aimé présenter une tapisserie des collections de François Ier. Malheureusement, il en existe aujourd'hui deux au monde, une au Vatican, une à Vienne, et ces tapisseries ne voyagent pas. Donc on a eu la chance de trouver au Patrimonio National à Madrid une tapisserie qui est exactement la même que François Ier possédait exactement la même dans ses collections. Et pourquoi on n'a plus de tapisserie de François Ier ? Parce qu'elles ont été pour la plupart brûlées à la Révolution pour récupérer les fils d'or qui les composaient. Et alors on a quand même la chance de montrer une pièce contemporaine avec du même modèle finalement exactement identique à celle que François Ier possédait, mais celle-là, il a fallu la faire venir de Madrid dans un camion. C'est une tapisserie qui fait 9 mètres de long, 5 mètres de haut. Il a fallu la faire venir par camion sous escorte. Voilà, mais donc des témoignages extrêmement rares. Et donc, pour revenir à votre question initiale sur effectivement le siècle de François Ier, c'est effectivement dans une certaine mesure une espèce de répétition générale, puisque. D'autres moments où la culture en France a fleuri et s'est épanouie, parce que vraiment, on est capable d'identifier, et dans les collections de Chantilly, et aussi à travers les prêts qu'on nous a consentis, on est capable d'illustrer des domaines extrêmement variés, que ce soit le dessin, la peinture, l'architecture, les objets d'art, les objets d'ameublement. voilà, avec des pièces véritablement majeures et remarquables. Et c'est tout le prix d'être capable de faire une exposition de cette ampleur et de cette qualité à Chantilly, parce qu'autrement, les œuvres de Chantilly n'auraient pas pu être associées à cette célébration. Et quand on voit les dessins, par exemple, de Primatis, qui sont des dessins qui servent à des décors préparatoires, pour certains existant encore à Fontainebleau, pour d'autres disparus, voilà, ce sont vraiment des témoignages à couper le souffle. Vraiment, ils sont d'une qualité, d'une beauté.
Oui, notamment un très beau François Ier en César.
Voilà, alors là aussi, on est vraiment au carrefour du François Ier politique qui, même s'il a perdu toute espérance de dominer l'Europe, comme, voilà, d'être l'héritier finalement de César, n'hésite pas à se faire représenter, demande à ses artistes de le représenter en César. Donc c'est un dessin absolument remarquable. Il est remarquable par sa qualité, sa facture. Son auteur, c'est le Primatis, dont le Primatis, vraiment, qui est, avec le Rosso, un des artistes que François Ier suscite et sollicite. Et c'est aussi un panneau qui, sans doute, alors ça, c'est une des découvertes de mon homologue commissaire général de l'exposition, Maxence Hermant, qui est conservateur au département des manuscrits, puisqu'il a identifié ce panneau comme faisant partie du cabinet des livres de François Ier à Fontainebleau. C'est une découverte et ça nous sert de transition avec la partie sur le roi. Là, on vient d'évoquer le roi mécène et on passe à la partie suivante où on évoque le roi collectionneur et en particulier collectionneur de livres.
Oui, car dans l'exposition, il y a une vaste présentation de livres précieux, richement enluminés. Alors précisément, donc, on parle des livres du roi.
Les livres du roi, alors la bibliothèque du roi, alors on parle des livres du roi, on parle aussi des livres de ses enfants, ça j'en dirais un petit mot. Alors c'est une section qu'on est vraiment, enfin un sujet qu'on est très très heureux de traiter parce que vraiment à Chantilly, on a une concentration de livres de François Ier absolument unique. Alors naturellement, le premier gisement de livres de François Ier, c'est la Bibliothèque nationale de France, qui en possède à peu près un millier. À Chantilly, on est le deuxième gisement et on en possède à peu près une centaine. Par des pointages, on s'est aperçu que de son vivant, le duc d'Aumale, donc quand il constitue sa collection, grosso modo entre 1848 et 1897, ne manque pas. Il surveille les ventes aux enchères, les ventes, et il achète tous les livres de François Ier qui passent en vente. Donc voilà. Et donc il est capable de, entre guillemets, de s'approprier à la fois. Alors on les a un petit peu classés, hein, parce que c'est les bibliothèques de François Ier, c'est un sujet assez complexe, assez technique, mais on en donne une vision un petit peu simplifiée, un petit peu générique. On présente d'abord les emblèmes. Et on présente trois manuscrits véritablement incontournables, qui sont vraiment les trésors de nos collections de manuscrits à Chantilly. Alors le manuscrit est un point fort à Chantilly, et là on en montre trois exemples tout à fait remarquables. Le premier, c'est les commentaires des guerres galliques. Alors c'est un livre, un manuscrit enluminé, qui est en trois volumes. Alors à Chantilly, on en possède un volume, l'autre est à la Bibliothèque nationale, et le troisième est à la British Library de Londres. Donc ça vous positionne un peu la qualité de ces collections. Et c'est un livre enluminé qui a été fait par un des précepteurs de François Ier, François Desmoulins. Donc on voit tout le rôle de sa mère, hein, qui, je dirais, passez-moi l'expression, coach un petit peu son fils pour faire de lui un grand roi, un grand monarque. Et c'est un récit
destiné à la formation du jeune roi.
Voilà, un petit peu onirique. Voilà, c'est une période où on aime beaucoup les énigmes, les légendes. Voilà, on a une vision parfois un petit peu, voilà, un peu technique, un peu presque positiviste de la Renaissance. C'est un moment où il y a beaucoup de place pour le rêve, pour les horoscopes, les livres d'énigmes. Et donc c'est une espèce de récit initiatique où François Ier s'endort dans une forêt, Jules César lui apparaît en songe et lui donne tous les conseils pour gagner ses victoires. Et alors c'est un livre extrêmement beau, enluminé par Godefroy Lbata, qui est un des grands enlumineurs du moment. C'est d'une beauté, d'une modernité aussi, ça il faut le dire, rare. Hein.
Et dans une modernité graphique.
Oui, quand on voit ces artistes de la Renaissance, il y a une espèce d'élan, de caractère vraiment, d'énergie dans ces créations qui est vraiment frappant. Hein. Comme le disait un petit peu à voix basse, un des un des commissaires de l'exposition dit après le 16e, ça devient un petit peu décadent. Voilà. Donc là, il y a vraiment des productions artistiques très très belles.
C'est plein d'énergie vitale, c'est ça ?
Oui, voilà, on sent que vraiment il y a la redécouverte de l'héritage antique avec des artistes d'une virtuosité, d'une énergie, d'une humanité aussi qui est tout à fait remarquable. Autre manuscrit vraiment incontournable que l'on présente et ça sert de visuel à l'exposition, c'est le Diodore de Sicile, où on a une représentation du roi, de sa cour, de son entourage, de ses enfants, qui est très intéressante parce que d'abord c'est pas une vision c'est une vision qui est produite par l'auteur du livre, qui est Antoine Macot, qui est un des secrétaires du roi, qui se figure lui-même en train de faire la lecture de ce livre. Alors ce livre, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire des peuples d'Afrique, des peuples disparus d'Afrique. Voilà, on retrouve les vieux récits antiques de géographie ancienne qui sont remis un petit peu au goût du jour, traduits et proposés au roi. Et donc on voit l'auteur, Antoine Macot, en train de lire au roi. Donc c'est assez drôle de lire au roi son livre. Alors c'est assez emblématique de ce roi qu'on présente proche du livre. Là, c'est assez amusant parce que le livre, il ne le touche pas, on lui fait la lecture. Alors on raconte que François Ier était soi-disant très, très érudit, qui savait le grec, le latin. Il a fait beaucoup pour la diffusion de ses connaissances, mais il lisait du français. On a quelques documents d'archives dans nos archives où on le voit écrire. C'est une graphie que je ne qualifierais pas d'hésitante, mais en tout cas très... très posé, voilà, voilà, il faut aussi faire la part des choses entre le raconter, le vécu, mais en tout cas les témoignages qu'il avait dans sa bibliothèque, donc c'est le cas du Diodore de Sicile. On montre aussi parmi ses emblèmes un sommet dans l'enluminure de l'époque qui n'est pas un livre de François Ier, mais on pouvait pas faire l'impasse sur le connétable de Montmorency, qui sont les heures de Montmorency, qui sont là aussi une œuvre tout à fait majeure. Et puis on a ajouté à cet ensemble des livres que François Ier avait dans ses différentes bibliothèques. Et puis Fabienne Lebars, qui était responsable de cette section, et qui est donc conservateur à la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France, propose vraiment une espèce de feu d'artifice des reliures de François Ier, en montrant toutes les variantes, les différences, et ça c'est vraiment unique. On a des pièces, et en plus on les a présentées d'une façon, on a un scénographe qui nous a fait une présentation extrêmement dynamique de ces pièces, et vraiment ça ne s'est pas vu depuis longtemps.
Que peut-on déduire de l'examen de tous ces ouvrages, de ceux que vous présentez, en termes de vision du monde, d'utilisation du livre comme outil, je ne sais pas, de propagande, pourrait-on dire,
Alors, il faut bien.
Oui. Voilà, est-ce qu'on sont des livres qui sont publiés, mis en avant, édités, on a vu pour sa formation, mais est-ce qu'il n'y a pas également une dimension publiciste ?
Alors, on anticipe peut-être un petit peu sur la dernière partie de l'exposition sur François Ier et les humanistes, mais quand on s'attache au livre du roi, on a vraiment des témoignages et des manifestations, je dirais, de sommets dans l'art de l'enluminure, de sommets dans l'art de la reliure. Sommet dans l'art de l'imprimer. Voilà, donc c'est ça qu'on peut toucher du doigt à travers ces documents. On explore, je vais en dire un petit mot parce que c'est un aspect aussi assez intéressant, et on a été capable de faire revenir des livres qui n'étaient pas venus en France depuis le XVIe siècle. Donc ça, c'est très intéressant. On a des prêts qui viennent des Pays-Bas, on a des prêts qui viennent d'Italie, et on a fait une section sur ce qu'on a intitulé « Les livres des enfants de France ». Puisqu'on a on avait un noyau dans les collections de Chantilly qu'on a complété par des prêts extérieurs, on est capable de réunir les livres des enfants, notamment des livres qui ont été faits pour cet épisode un peu triste, qui est celui de leur captivité. Donc, au terme de la bataille de Pavie, François Ier est capturé par son ennemi, par Charles Quint, et il est libéré, mais une seule condition, c'est qu'on envoie ses enfants en otage. Et donc, les enfants de France sont envoyés en captivité, et naturellement, on ne les fait pas partir comme ça, ils sont entourés par une petite cour avec des précepteurs, et on fait faire des livres à leur intention, à la fois des livres de piété. Et donc on réunit à la fois des livres qui ont été propriété du dauphin François, du dauphin Henri, livres d'heures.
Oui, car même captif et le reste des dauphins.
Oui, oui, oui. Malgré tout. Et,
qu'on commence déjà à préparer un règne.
Voilà, et même si certains d'entre eux n'arriveront pas jusqu'à l'âge adulte pour arriver jusqu'au trône, il était très émouvant de pouvoir réunir à la fois donc, leurs livres, leurs portraits, et les dessins préparatoires de ces portraits, puisqu'à travers les dessins de Clouet, on est capable notamment de rapprocher les tableaux qui nous sont prêtés par Anvers ou des tableaux du musée Condé et les dessins préparatoires. Voilà, c'est une exposition d'histoire, mais c'est aussi une exposition d'art avec qui comblera aussi les amateurs du dessin
français. Oui, de nombreuses disciplines.
Voilà, c'est vraiment une exposition qu'on a. Bon, c'est un peu pompeux de qualifier ça d'exposition à 360 degrés, mais en tout cas, c'est un petit peu le souhait qu'on a eu, parce que quand on fait une exposition sur le siècle de François Ier, on doit traiter un petit peu tous ces aspects, et j'en viens...
Il y a un dernier aspect qui est oui. peut-être plus anecdotique, mais non moins intéressant, puisque François Ier donc collectionnait ou se constituait une bibliothèque, mais il avait également un extraordinaire cabinet de curiosité que vous nous présentez. Mais, et qui n'est pas si anecdotique, parce que finalement, il révèle aussi un engouement et un goût qui est lié aux enjeux de son temps, puisque si je comprends bien, ce cabinet de curiosité est lié aux grandes découvertes de cette époque.
Alors, effectivement, on s'est permis un petit excursus autour du cabinet de François Ier, cabinet de curiosité. Quand on s'intéresse au goût de François Ier, bon, si on peut assez rapidement faire le tour dans le domaine graphique, dans le domaine du livre, et c'est à peu près la même chose dans son cabinet de curiosité, c'est à la fois un roi médiéval et c'est aussi un roi de la Renaissance. C'est-à-dire qu'il a un goût. On pourrait attendre d'un roi contemporain de l'imprimerie qui n'ait que des livres imprimés dans sa bibliothèque. Par contre, il a beaucoup, beaucoup de manuscrits dans sa bibliothèque. Et dans son cabinet de curiosité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il a des témoignages contemporains de la découverte de l'Amérique. Alors, c'est une date que tout le monde a en tête, mais il est aussi contemporain. Voilà, il envoie des expéditions. Il y a des Français qui, à l'époque, se rendent au Canada, se rendent au Brésil et rapportent des témoignages à la fois d'histoire naturelle, mais aussi des témoignages des peuples qui sont découverts. C'est ce qu'on appelle à l'époque la France antarctique. Et François Ier a rassemblé effectivement ces objets dans un cabinet. Alors, c'est un cabinet pour lequel, un petit peu comme pour les objets d'art, l'information est très rare. Hein. Une information très éparse, très difficile à consolider. Et ce qu'on propose dans l'exposition, c'est une évocation en fait de ce cabinet, donc qui est faite de ces objets exotiques, de ces objets finalement contemporains des grandes découvertes. On montre aussi un très très beau globe des années 1550 qui nous est prêté par le département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, des objets vraiment qu'on voit peu. Mais aussi dans ce cabinet, il y a des objets qui sont, je dirais, beaucoup plus médiévaux, puisque dans son cabinet de curiosité, François Ier avait aujourd'hui on sait que c'est une dent de narval, mais à l'époque c'était une corne de licorne.
Oui, j'allais dire, s'il a acheté une corne de licorne, il s'est fait avoir.
Voilà, il s'est fait avoir, mais c'était l'objet. Alors c'est très amusant parce que les historiens d'art au 19e siècle disaient c'était l'objet, quand on avait fait des évaluations de ces collections, qui était le plus cher. L'historien là, au 19e siècle, disait, mais ce François Ier et son entourage, c'était des gens pas très éclairés quand même, parce qu'ils donnaient le plus haut prix à ce qui n'est finalement pas grand-chose. Alors, il disait, mais les tableaux de Léonard de Vinci étaient peu valorisés, peu évalués, pas cher, et la corne de licorne très chère, il s'était trompé. Alors qu'effectivement, c'est un objet effectivement très rare à l'époque, qui se rattache un petit peu à la légende. C'était aussi un objet prisé parce que la corne de licorne réduite en poudre était un antipoison assez efficace, donc on était assez content d'en avoir dans ses trésors, dans ses richesses. Et donc François Ier avait aussi des objets un petit peu comme ça, un peu médiévaux, un peu fantastiques. Et le clou, alors ça c'est très amusant, le clou de son cabinet de curiosité, c'était une hydre. Alors une hydre naturalisée qui lui avait été offerte par le pape. C'était bien sûr un animal complètement fabriqué, mais qu'à l'époque on considérait comme, on disait, mais finalement l'hydre qu'on connaît dans l'Antiquité avait peut-être une existence, s'était retrouvée, avait de lointaines manifestations dans l'histoire naturelle. Et alors on ne montre pas l'hydre de François Ier, mais on montre un dessin de Giulio Romano, Jules Romain, qui est un grand artiste de la Renaissance, qui justement représente une hydre. Et voilà, c'était un petit clin d'œil au goût à la fois extrêmement Renaissance, mais aussi assez médiéval qu'avait François Ier. Mais l'autre grande découverte, effectivement, de l'époque, c'est... Première grande découverte, c'est l'Amérique. Et l'autre grande découverte, c'est l'imprimerie et l'imprimé. Et là aussi, on a une section qui a été produite par un autre commissaire de l'exposition qui s'appelle Louise Amazan, sur le François Ier et les humanismes et ce rôle très important du livre et de l'imprimé, notamment pour fabriquer ou écrire l'histoire du roi, mais qui est assez fascinante aussi.
Dans ce grand balayage de l'exposition, finalement, je vous ai coupé tout à l'heure, vous vouliez parler de François Ier et les femmes, c'est peut-être une façon de conclure sur une note un peu plus légère. Il y a toute une section qui est consacrée à cela.
Oui, alors, il y a un certain nombre de passages obligés un petit peu avec François Ier, on ne pouvait pas faire l'économie de celui-là. Alors, c'est intéressant parce qu'il a effectivement une résonance aussi avec ce... François Ier, le livre, François Ier et les humanistes, parce que bon, alors les femmes de François Ier, c'est d'abord sa mère, Louise de Savoie, qui le programme et qui toute sa vie le surveillera. Et c'est à elle qu'il adressera cette lettre quand il sera prisonnier à Pavie. Tout est perdu, fort l'honneur. Voilà. Et c'est naturellement sa sœur. Alors, on a un livre très très beau qui nous est prêté par le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, où on voit, c'est un livre d'énigmes, ce qui était très à la mode à l'époque, où on voit dans une série de cercles concentriques avec des signaux, des symboles un petit peu ésotériques, on voit un grand cœur, hein, et dans ce grand cœur, trois petits cœurs. Et sur ces trois petits cœurs sont inscrits trois lettres, le F de François, le L de Louise de Savoie, sa mère, et le M de Marguerite de Savoie, sa sœur, qui est un personnage très important. Et donc, Louise et Marguerite vont tout faire pour François. Donc, c'est cette triade d'Angoulême. Et dans le domaine des lettres, Marguerite de Savoie est un personnage très intéressant. On a à la fois des versions manuscrites de ses œuvres qui sont conservées à Chantilly, mais aussi... des versions imprimées, notamment les Ptamérons, qui sont des adaptations du Décaméron de Boccace à la sauce Renaissance. Et c'est intéressant parce que ça donne une vision un petit peu plus moderne. On imagine un peu trop souvent la femme à la Renaissance comme un peu prisonnière dans le rôle de la courtisane. Il y a des femmes de lettres, des femmes de tête, comme on disait à l'époque, des femmes de test. On disait à l'époque. Et vraiment, la dernière section sur le livre balaye aussi cet aspect des choses. On est très heureux de pouvoir montrer aussi, alors on s'éloigne un petit peu des femmes, mais on a des versions imprimées de ces travaux. Ça, c'est un des clous de l'exposition. Les caractères grecs que François Ier a commandés à Robert Estienne, son imprimeur, et Robert Estienne se retourne vers Garamond. Donc on connaît tous dans nos ordinateurs la police Garamond, mais Garamond, c'était un monsieur, voilà, qui était un typographe extrêmement talentueux, puisque vous imaginez que c'était extrêmement compliqué de graver dans le plomb, de rendre en plomb des caractères grecs. Alors là, on est plein cœur du projet intellectuel de François Ier de faire de la France le réceptacle et la patrie des humanités, notamment du grec. Bon, alors aujourd'hui, quand on parle de la suppression des langues anciennes dans l'enseignement, ça fait écho. Donc on a la casse, comme on dit dans le jargon des imprimeurs fondu par Garamond, que nous a prêté l'imprimerie nationale. Et on a reconstitué une chaîne du livre, une mini-chaîne du livre dans une vitrine, où on a le manuscrit annoté. Donc, manuscrit grec annoté, on a la caisse avec les caractères, le mandement que Antoine Macaud, donc le fameux secrétaire de François Ier, avait commandé à Robert Estienne de faire réaliser ses caractères, et le livre imprimé avec ses caractères qui vient des collections de Chantilly. Et voilà, c'est un superbe témoignage du livre à l'époque. On a beaucoup d'autres, à la fois sur qu'est-ce qu'on lisait à l'époque de François Ier, ses romans de chevalerie.
Alors justement, que lisait-on ?
Voilà, alors c'est assez amusant parce qu'on a cette vision un petit peu, très un peu moderne. Mais ce qu'on lisait beaucoup, c'était des romans de chevalerie. Alors, c'est très amusant aussi parce que le livre, pendant toute une période, il faut que le livre ressemble au manuscrit. Donc on voit bien qu'on est... C'est ça qui est fascinant de cette période. Il y a l'énergie des créateurs qui est frappante, mais aussi on est vraiment dans une période de transition. Et ça se voit aussi dans le livre, effectivement, où avant de lire des auteurs renaissants ou contemporains ou des textes antiques retrouvés. On aime bien lire des romans de chevalerie, des choses un peu, voilà, un petit peu anciennes. On lit bien sûr tous ces grands auteurs, poètes, Marot, La Pléiade. On a aussi des pièces tout à fait émouvantes. On a les toutes premières éditions de Rabelais que le duc d'Aumale avait dans sa bibliothèque. Et c'est très beau, parce que c'est intéressant parce que ce sont des petits livres portables qu'on pourrait lire à la messe, comme dirait Marc Fumaroli, mais qui montrent que ça y est, le livre est déjà un objet qui se diffuse et qui n'est plus réservé aux puissants, qui n'est plus réservé aux rois, mais qui va se retrouver dans la main de personnages moins haut placés dans l'échelle sociale, que ce soit les gens de robe, parfois même le clergé aussi. Voilà. Donc on a aussi cet aperçu dans l'exposition. On a essayé vraiment de rendre justice au siècle de François Ier dans sa richesse, dans sa diversité. Je l'ai dit, on s'est associé des commissaires dans beaucoup de disciplines, dans l'histoire du livre, dans l'histoire de la reliure, dans l'histoire des lettres, on a vraiment donné, on essaie de donner en tout cas une vision la plus complète possible et la plus riche possible, avec différents niveaux de lecture de ce siècle de François Ier.
Merci Olivier Bosque. Pour terminer, je vais vous poser une question un petit peu hardie, car il est toujours difficile de faire des parallèles, mais vous l'avez dit à plusieurs reprises, le siècle de François Ier, c'est un siècle de transition, avec des découvertes au-delà des mers, une découverte majeure qui est celle de l'imprimerie. Peut-on se nourrir de ce siècle de François Ier, tirer des enseignements pour relever les défis d'aujourd'hui, ou au moins nourrir notre réflexion sur les défis d'aujourd'hui? Ou est-ce que c'est un petit peu hardi de l'envisager comme cela?
Les défis, notre période en compte beaucoup. Le siècle de François Ier, on a compté beaucoup. Moi, ce que je trouve très, très intéressant dans cette période, dans ce XVIe siècle français, c'est sa capacité, je dirais, à accueillir à la fois des héritages qu'on retrouve, qu'on redécouvre. Et on est aussi dans une période un petit peu hyper-amnésique, où on a ce souci d'un passé très fort. Donc ça, c'est intéressant de voir que ça date pas d'hier, si je puis dire, ce souci du passé. Ce qui est vraiment très fort dans l'exposition, et lorsqu'on voit par exemple des imprimés faits par les grands noms de l'imprimerie au XVIe siècle, c'est voir l'actualité de ces créations. Donc ça, je dirais que ça valorise. Aujourd'hui, on ouvre un livre de poche, qu'on voit mis en page d'une certaine façon. Bon, c'est assez frappant de voir que ces codes, ils ont été posés, calés et qui n'ont pas bougé quasiment depuis 5 siècles. Donc ça, c'est important pour identifier ce que, dans ce continuum historique, on a réussi. Et à l'heure où le numérique déstructure les textes, substitue parfois l'image animée ou le son au livre imprimé, c'est important d'avoir ce petit cheminement. Ça identifie qu'est-ce qu'il y a de précieux dans notre héritage culturel, d'une certaine façon. L'époque de François Ier est une époque aussi où il y a eu des régressions. Je l'ai dit, on a quand même détruit beaucoup de choses qui ont été produites en son temps. C'est très compliqué aujourd'hui de faire... Moi, je l'ai vécu pour le cabinet de curiosité. On a quasiment plus aucune source. C'est la même chose pour les spécialistes de l'orfèvrerie qui ont dans leur collection des choses qui n'ont pas été identifiées comme François Ier. Et puis, dans un fonds d'archives, on retrouve un inventaire royal et on se dit « Ah, mais tiens, cette pièce qui est décrite à tel endroit de l'inventaire, c'est celle-là. » Donc, c'est inquiétant aussi parce qu'on voit qu'une période comme celle de la Renaissance avec... des artistes, des chefs-d'œuvre extrêmement aboutis. Et après, il peut y avoir des régressions. Il peut y avoir des périodes d'obscurité et des pertes. Voilà. Donc ça nous rend aussi très, très sensibles à ce qu'on peut perdre. Tout n'est pas gagné, tout n'est pas acquis. Il peut y avoir aussi des régressions et il faut se méfier de ces périodes. Ces témoignages un petit peu parfois incomplets. La culture, c'est...
C'est précieux et fragile.
On est un peu avec George Steiner quand on visite et quand on a encore ses vestiges sous les yeux.
Merci beaucoup Olivier Bosque. Pouvez-vous nous rappeler pour terminer les dates de l'exposition? Donc ça, je vais le faire. Elle se tient donc du 7 septembre jusqu'au 7 décembre 2015 au jeu de paume du domaine de Chantilly. Enfin, je voudrais que vous me disiez un mot du catalogue qui peut donc être commandé et où.
Alors, on a réalisé un catalogue donc, qui recouvre effectivement qui balaye toutes les œuvres que nous présentons avec les contributions des commissaires que j'ai évoqués. Il est disponible auprès de l'éditeur Cercle d'Art. Il est en vente naturellement au domaine de Chantilly, dans les deux boutiques du domaine. Et on peut se le procurer naturellement dans les bonnes librairies ou auprès de l'éditeur qui est le Cercle d'Art, contre 35 euros.
Je conclue en disant qu'il est richement illustré, bien sûr, comme tous les catalogues. Il fait 230 pages. C'est donc cadeau 30 euros pour un objet comme celui-là.
Voilà. Là, vous avez fait les soldes. C'est 35 euros.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Thank you.